Merci évidemment aux organisateurs pour leur invitation. Merci aussi à Pierre qui m'a fourni la transition idéale tout à l'heure en me disant, en nous rappelant qu'il regardait Fenêtre sur cour le vendredi soir, ébloui par la couleur qui lui faisait un effet fort sur les sens, la chaleur de cette couleur. Puisque en fait, mon but, c'est de mettre l'accent aujourd'hui sur le fait que nous voyons les films, enfin nous en avons tous l'expérience quotidienne, mais il semble nécessaire de le redire de temps en temps, nous voyons les films, pas seulement avec nos yeux et notre cerveau, mais avec notre corps, donc je voudrais remettre un peu l'accent sur le corps, les sens, les sensations, dans Fenêtre sur cour. Alors évidemment, cette question, je le répète, est une question aussi ancienne que le cinéma lui-même, hein, puisqu'on sait depuis les frères Lumière que les spectateurs étaient galvanisés, évidemment, et pas seulement intellectuellement, par les premières images du cinématographe. Mais comme il faudrait beaucoup de choses pour faire cette histoire, et pour montrer comment cette histoire est devenue finalement un courant de recherche universitaire, il y a, disons, entre 25 ans à peu près, je vous résume simplement. Alors, je précise quand même que la première image que vous voyez, c'est celle d'un ouvrage très connu sur Hitchcock qui s'appelle The Art of Looking, et que c'est justement un petit peu pour aller ailleurs, hein, que je vous rappelle l'existence de cet ouvrage de Stephen Scharf. Donc je vous rappelle simplement une citation d'une des chercheuses qui a beaucoup contribué à ce courant qu'elle appelle pour elle synesthétique, c'est-à-dire le fait effectivement que nous voyons et que nous appréhendons, nous comprenons les films avec tout notre être corporel, informé par la pleine histoire du savoir de la chair et de l'ensemble de nos sens tels qu'ils ont été formés par la culture. Alors, sur Hitchcock, évidemment, il est évident qu'il y a une dimension très, très tactile, très haptique, très sensuelle, tant dans le suspense que dans les frissons que vantent les affiches publicitaires. Et donc, on se dit a priori que ça doit être très présent dans tous les commentaires, mais c'est pas si présent que ça, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été contente de trouver un livre que je ne connaissais pas, mais que mes collègues connaissaient sans doute. Donc, ce livre de Paul Elliott qui date de 2011, hein, Hitchcock and the Cinema of Sensations de Paul Elliott, dans lequel il prend un petit peu, alors non pas le contre-pied, hein, il est très très prudent sur le fait que ces positions ne viennent pas remplacer les théories les plus courantes sur Hitchcock, elles viennent s'y ajouter. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'il propose, par exemple, il souligne, hein, ça, c'est, au début, c'est un petit peu un détail, mais ça donne déjà une direction, que Jeff n'est pas seulement un regard, mais que pour lui, tous les sens sont concernés. Hein, quand il regarde dans la vie de la cour, des appartements, il utilise son ouïe avec la musique, les voix, etc., son sens du goût, la nourriture de Miss Lonely Hearts, le breakfast de Miss Torso, son sens, son odorat, hein, avec les fleurs de tournoil ou l'odeur des corps chauds, et son toucher, par exemple, quand il voit la mariée soulevée. Voilà la citation que je viens de vous lire. Bon, comme il ne s'agit pas d'un livre sur Hitchcock comme auteur, hein, il y insiste à plusieurs reprises, comme un cas d'école finalement, pour sa théorie, il n'analyse pas intégralement tous les films, mais il analyse ce qui est pour lui le plus pertinent, et particulièrement l'entrée de Thorwald chez Jeff à la fin, en mettant en valeur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une séquence sur la vision, mais au contraire sur ce qui est caché au regard, sur la difficulté de se voir. Et effectivement, alors je ne vais pas vous passer la séquence, mais si on... Et puis ce que j'ai photographié là est très sombre, enfin les arrêts images sont très sombres. Mais là, vous voyez par exemple que le visage de James Stewart quand Thorwald rentre chez lui est complètement dans l'ombre. et que le face-à-face entre lui, alors que évidemment le visage de Thorvald est lui aussi cherche aussi à s'adapter à la lumière, et avec ce face-à-face entre deux personnages qui ne peuvent pas se voir, donc soit par l'obscurité, soit ensuite par la grande clarté du flash, font que les personnages, vous voyez, là, je sais pas dans quelle mesure on voit, en fait. Enfin, vous connaissez bien le film, vous savez, c'est le moment où James Stewart fait ça. Hein, d'accord ? Pour citer Aimé Agnel, qu'on a reçu ici même, d'ailleurs, il y a plusieurs années, c'est un philosophe qui a travaillé notamment sur l'ennui chez Hitchcock. Alors, il y a un texte de lui qui est facilement accessible sur Internet, qui remet en cause également la notion de voyeurisme. Alors, quand je dis remet en cause, que essayait aussi de faire un petit peu Paul Elliott, encore une fois, ce n'est pas une remise en cause radicale, hein, c'est de dire il y a ça, et puis il y a d'autres choses que les interprétations les plus courantes nous ont peut-être un peu empêché de voir. Voilà ce qu'écrit Aimé Agnel dans cette activité donc, de regarder ses voisins. Qui est sa seule distraction, ils sont plus intrigués ou amusés que voyeurs, c'est pourquoi son voyeurisme que lui reproche Stella, pardon, c'est pourtant son voyeurisme que lui reproche Stella, l'infirmière, vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir, lui dit-elle, mais voit-il vraiment ce qu'il regarde? Son attention paraît flottante, les choses ne s'imposent à lui que par la force de leur anecdote, une danseuse en petite tenue qui esquisse ce matin quelques mouvements, un compositeur qui nettoie son studio, etc., etc. Non, Jeff n'est pas, à proprement parler, un voyeur, mais quelqu'un à qui le monde arrive grâce à sa disponibilité momentanée. Voilà, donc ces lectures dont je viens de vous parler, là, sont celles-là et d'autres, hein, sont ce qui m'a conduit à essayer de revoir le film, en m'éloignant un petit peu de la dimension uniquement scopique. Et puis ce qui m'a conduit aussi à le faire, c'est parce que je suis très sensible à la chaleur et que quand je pense à Fenêtre sur cour, je pense avant tout à la chaleur. Donc il y a des films effectivement où il est censé faire chaud, où les personnages disent qu'il fait chaud sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Alors, c'était vraiment évidemment pas le cas ici. Bon, c'est dans la fiction puisque le film est tourné à Hollywood. Visiblement, aucun appartement ne bénéficie de l'air conditionné, ce qui n'est pas étonnant puisque si on lit l'historique de la société Carrier, qui était le leader, je ne sais pas si elle l'est toujours, mais enfin qui était le leader de la climatisation, on est encore loin de l'équipement en climatisation de toutes les habitations individuelles. Le film se déroule donc essentiellement dans cet épisode de canicule, hein, qui est marqué par trois apparitions du thermomètre. Je n'ai pas les trois là, mais enfin, vous les voyez, à 31 degrés Celsius, 34 degrés Celsius au début, puis 30, légère baisse, qui ne rafraîchit pas pourtant l'atmosphère, malgré la pluie. Et enfin, je ne sais plus si c'est 21 ou 24 à la fin. Voilà. La météo structure donc le récit sur le plan temporel, et la chaleur est perceptible très tôt dans le film avec le plan dont on a déjà parlé, ce plan rapproché du visage en sueur de Jeff. Donc il y a ce plan célèbre du front en sueur de James Stewart, mais les variations de température jouent aussi implicitement à travers l'alternance entre jour et nuit, hein. Je vous renvoie à l'étude, hein, du script par Pierre Bilot, il montre bien les choses qui se situent pendant le jour, pendant la nuit. Ça n'a pas l'air... C'est une canicule, hein, c'est-à-dire c'est une canicule météorologiquement, c'est quand les écarts de température entre le jour et la nuit sont très faibles. Hein, au cas où vous ne l'auriez pas constaté pendant les dernières canicules qui nous ont tourmentés. Ces passages nocturnes apportent une sensation de moindre accablement avec des couleurs sombres, la pluie, le silence, etc. De fait, la chaleur, quand on y pense, c'est bien ce qui rend tout possible. Le petit théâtre des appartements aux fenêtres toujours ouvertes, dont on a parlé à plusieurs reprises, auquel on pourrait ajouter maintenant l'esprit de la visioconférence, hein, j'y ai pensé juste hier en voyant le film. Le bain sonore, qui monte de la cour, formée de bruit hétéroclite. L'exposition des corps, alors évidemment toujours la si souvent citée Miss Torso. Le fait que l'intime disparaisse et que les choses privées se font en public, comme par exemple le fait de dormir sur son balcon, ce qui veut dire quand même qu'il fait moins chaud à l'extérieur que dans les pièces, ce qui peut aussi être un élément d'analyse à garder en tête. Et puis l'imprudence, puisque certes, Tornoil a souvent ses fenêtres baissées, mais il y a aussi des choses qu'il fait devant sa fenêtre ouverte et qui sont assez imprudentes. Alors, bien sûr, cette chaleur, on peut me dire, elle est fausse, elle est artificielle, les gens jouent la comédie, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que dans les commentaires, dans le livre de Belton, notamment, on insiste sur le fait que les acteurs avaient vraiment chaud, hein, parce que tout simplement, parce que ce décor demandait un éclairage très, très intense. Hein, je ne rentre pas dans les détails techniques. Et voilà ce que dit James Stewart, hein. Un plan qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Alors, ce n'était pas le cas de tous les plans, sans doute, mais un plan où la chaleur était très intense. Hein. Donc, les acteurs n'étaient pas complètement loin de leur personnage à ce niveau-là. Alors, un autre élément lié à la chaleur, qui lui a été très commenté, concerne la tonalité érotique du film, bien sûr. La première à l'évoquer, c'est Stella, hein, donc Thelma Ritter, dont on a parlé, qui attribue dès son entrée en scène une narration, une intention grivoise, hein, au regard de Jeff, et dit que son activité de voyeur pourrait être punie par la loi, ce que Pierre Bellot corrige à juste titre en disant que non, le délit qui existe en tout cas en France, c'est l'invasion dans la vie privée, mais il n'y a pas de délit. Alors j'espère que c'est juste, parce que je ne suis pas du tout juriste, il n'y a pas de délit de voyeurisme. Bon, si le personnage de Thelma Ritter est très très soigné, bien sûr, parce qu'elle a quand même une certaine stature dans le cinéma de l'époque, Stella, en revanche, le personnage fait erreur, on le voit assez vite, parce que sa grille de lecture n'est pas celle de Jeff, parce qu'elle ne comprend pas son regard de photographe, et d'ailleurs cette grille ne tiendra pas, hein, puisque dès qu'elle sera convaincue des hypothèses de Jeff, on l'a dit tout à l'heure, elle va s'embarquer elle-même dans l'enquête avec plus de passion encore que les autres. Et en plus, c'est elle qui va le plus évoluer, hein, pendant le film, puisque après avoir quelque part condamné, enfin, toute cette histoire de vision, et après avoir parlé de façon très morbide des corps coupés en morceaux, coupés dans la baignoire pour pas que le sang déborde, etc., à la fin, quand il s'avère que le corps découpé est finalement chez Thornwald et que le policier lui demande « Vous voulez voir ?», elle répond « Non, non, très peu pour moi. Hein. » Donc elle a complètement perdu sa morbidité. Alors, si on se contente en fait d'écouter Stella, si on cesse plutôt d'écouter Stella, on voit que Jeff ne se comporte pas en permanence selon les principes du voyeurisme. Comme le disait Aimé Haniel dans la citation tout à l'heure, son attention est flottante. Il regarde la cour en parlant au téléphone, regarde les voisins distraitement, avec un petit sourire de temps en temps, mais pas plus. Et quand Lisa lui fera des reproches sur son manque d'éthique, il s'en débarrassera assez rapidement en mettant tout ça sur le fait qu'il s'agit quand même de retrouver un meurtrier. La connotation érotique ne marche pas pour lui. Il préfère très vite la tonalité policière, qui est évidemment plus proche de lui. Il lutte contre les effets délétères de la chaleur, reste à son poste dans le fauteuil toute la nuit, comme pour garder sa lucidité, quitte à s'endormir à l'aube, au moment justement où il devrait regarder. Face aux efforts de séduction de Lisa, il se comporte lui-même comme une sorte de censeur. Vous vous rappelez ce moment assez curieux où il lui dit « shut up » deux fois. Il lui dit une première fois « tais-toi » et ensuite « shut up » très, très violemment, hein, comme s'il voulait mettre un terme à ses bavardages sensuels. Alors, ce qui justifie ces questions, évidemment, que tout spectateur ayant son bon sens peut trouver invraisemblable, vu la beauté de Grace Kelly et sa séduction, c'est l'état de son corps, évidemment, qui est, on l'a beaucoup dit, plus proche de celui d'un enfant, ou en tout cas d'un malade, que d'un adulte. Stella s'en occupe avec autorité, comme une nourrice, l'allonge, le masse. La peau de Jeff est soumise à rude épreuve par l'immobilité. C'est une peau malade, plus sensible au massage qu'à la caresse. Et d'ailleurs, la fragilité de son corps ne plaide pas en faveur de l'aventurier dur à cuire sous les traits duquel il se présente. Pour que Stella le masse, il doit enlever sa veste de pyjama et il apparaît avec un torse assez malingre. J'ai pas fait de comparaison avec d'autres films, hein, c'est une impression un peu subjective, elle est peut-être fausse. Une fois entre ses mains, il lui reproche de ne pas chauffer le produit. Ça vous arrive jamais de chauffer le produit. La lotion donc avec laquelle elle le masse. Son corps ne s'adapte pas, il n'apprécie pas cette fraîcheur. Mais il faut remarquer surtout, à mon avis, ici une chose intéressante, c'est que si nous sommes peu nombreux à savoir quel effet ça fait d'observer un voisin en train de préparer l'assassinat de sa femme, et encore moins nombreux, ou je ne sais pas, à se trouver près de Grace Kelly, le personnage est le site de sensations qui nous sont, elles, en revanche, très familières. Hein, puisque nous savons, avec notre corps, que même en temps de canicule, c'est pénible de recevoir un liquide froid sur la peau chaude. Hein. Nous savons combien il est agréable, vous savez, le moment où il se rhabille, de mettre du linge propre, un vêtement propre, et d'avoir des draps frais quand on a un peu mariné dans sa sueur pendant toute la nuit. Nous voyons à quel point il est exaspérant de ne pas arriver à... Nous savons, pardon, à quel point il est exaspérant de ne pas arriver à se gratter quand on a une forte démangeaison. Voilà deux grands moments du film où James Stewart, donc, où Jeff arrive enfin à se gratter avec des grimaces qui me semblent répondre à une question qui avait été posée tout à l'heure, une question sur l'expressivité. Alors là, on s'y croirait, hein, il souffre vraiment de ne pas pouvoir se gratter. Quand il atteint cette zone, donc il pousse un soupir de soulagement. Et cette sensation intense, sans équivalent, hein, d'avoir enfin gratté une peau irritée, fait que dans l'ensemble, nous connaissons bien certaines des sensations qu'expérimente Jeff. Pas des sensations impressionnantes, hein, qui sont de celles qui sont liées à la peur, à l'horreur ou au suspense, mais qui communiquent étroitement avec l'expérience du spectateur. Parce que la peau de Jeff, autant que ses yeux, est au centre de son aventure, on devrait s'en douter, puisque ça commence avec le plâtre dont il se plaint beaucoup, d'autant plus que son ami lui dit qu'il croit qu'il va le retirer aujourd'hui, alors qu'en fait il a encore une semaine à attendre, et qui donc n'en devient que plus insupportable. Et le plâtre le rend d'autant plus malheureux qu'il lui inflige une double peine, hein, puisque non seulement il ne peut pas aller faire ses reportages, mais il n'arrive pas à faire celui qu'il pourrait faire de chez lui. En effet, Jeff, en tant que reporter, est un homme de la distance par excellence. Il regarde le réel, qu'à travers son objectif. Et comme le dirait Raymond Depardon, le travail d'un photographe, c'est de trouver la bonne distance. Mais lui, il n'a jamais le loisir de trouver la bonne distance, puisqu'il y a des femmes autour de lui qui lui interdisent cette distance, qui lui rappellent sans cesse son corps et ses besoins, en lui offrant des nourritures simples ou gastronomiques, en l'embrassant, etc. Lisa pousse la demande d'ailleurs à vouloir qu'il se rapproche encore alors qu'il est aussi près que possible. Hein. Il lui répond d'ailleurs, mais que veux-tu de plus ? Je ne suis quand même pas de l'autre côté. Alors là, il dit en fait « the room hein. », il dit « je ne suis pas de l'autre côté de la pièce ». Ça a été mal traduit dans les sous-titres. Et Lisa veut, elle, absolument créer de la proximité de lui, de son visage, de son corps, de son lit. Si on parlait tout à l'heure de ce gros plan, elle lui colle littéralement. Hein. Elle se colle à lui sans crainte d'avoir trop chaud. Et d'ailleurs, dans cette perspective de se coller encore plus à lui, elle apporte le fameux déshabillé dont les intentions sont transparentes. En faisant venir le restaurant 21 chez Jeff, elle rapproche aussi de la ville, elle rapproche la ville de chez lui et lui interdit la solitude. Alors d'où ça vient toute cette énergie, bien sûr, du fait que malgré son ardeur amoureuse, la chaleur ne l'affecte pas. hein, pas plus sa peau que son maquillage ou ses toilettes. Ce n'est même pas une résistance à la chaleur, c'est une parfaite indifférence tellement extraordinaire qu'elle pourrait être une apparition, hein, qui ne serait pratiquement pas soumise aux conditions météorologiques. La froideur légendaire, hein, des blondes hitchcockiennes est donc à prendre ici au pied de la lettre. Hein, nous sentons Lisa comme enveloppée par un nuage de fraîcheur, et ça n'est pas dû seulement au fait qu'elle change de robe tous les jours. Cette imperméabilité à la canicule l'aide à rester toujours prête à agir, que ce soit pour demander l'attention amoureuse de Jeff ou pour faire des acrobaties bien connues sur son balcon. Elle ne se laisse pas non plus démonter par des détails sordides, hein, comme Jeff lui en donne pour la décourager. Hein, ce que je vais manger te soulèverait le cœur. Et on a l'impression qu'il est même un peu ridicule lorsqu'il essaye de l'effrayer avec ses discours. Il n'a pas l'air de s'apercevoir que les mots ne peuvent rien contre le corps de Lisa, qui est entièrement occupé par l'amour et la sensualité. Alors Stella non plus, hein, n'a pas chaud. Elle travaille avec énergie, précision et rapidité. En venant soigner Jeff le matin, elle apporte un vent de fraîcheur. Elle ne transpire pas, on a l'impression qu'elle sent la lotion, le désinfectant, les draps propres. Elle ne tolère pas que son patient lui résiste. Elle lui enfonce un thermomètre dans la bouche pour montrer que la tentation ne fait pas monter sa température. Pourtant, c'est là, elle aussi, et du côté de la sensualité, en plaidant la cause de Lisa et du mariage, mais d'une façon maternelle et rassurante. Et pour cette raison, Jeff ne lui résiste que mollement, car il ne se sent pas mis en danger par cette proximité médicale et très officiellement fournie par une compagnie d'assurance. Alors bien sûr, ceux tout cela n'a pas échappé, ce sont les applicateurs du code de production, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je vous renvoie au livre de Pierre Bellot dans lequel il y a un passage assez détaillé sur les démêlés qu'a eu le film avec Brain, les services de Brain, notamment sur Miss Torso. Bon, je passe, vous irez le voir, mais enfin, c'est des choses qui sont très connues. Le studio invite les représentants de la MPAA sur le plateau, ce qui était rare, et uniquement à la demande du studio. Et d'après le mémo de leur visite, ils repartent rassurés dès lors qu'ils constatent que tout sera vu du point de vue d'un homme assis à sa fenêtre dans un fauteuil roulant, et que donc la distance et l'angle de caméra adopté minimiseront les détails sexuels complètement décrits dans le scénario. Alors évidemment, les censeurs, mais ça c'est un autre sujet, eux s'occupaient essentiellement de ce qui est vu et de ce qui est caché, et pouvait être sensible bien sûr aux autres aspects, mais ce qui était plus facile à interdire, c'était quand même des images. Alors, ce qui m'intéresse ici, je vous cite un extrait du dossier pédagogique écrit par Frédéric Strauss, Collège de cinéma, qui est accessible sur Internet. Fenêtre sur cour choisit donc son corps. Oui, enfin, il disait avant que finalement Hitchcock n'avait rien changé, à part la couleur de la culotte de Miss Torso. Fenêtre sur cour choisit donc son champ, celui de la liberté du regard, de la curiosité spontanée, naturelle, etc. On a ici affaire à un voyeurisme de bon voisinage. Voilà. Alors c'est surtout pour cette expression que je vous ai mis cette citation, car la question de la chaleur du corps et des sens nous conduit inévitablement à une autre question essentielle, celle des voisins. Alors, on sait que les films de voisinage sont très nombreux, qui serait trop long évidemment de tous les citer. Le voisinage est une donnée cinématographique très importante parce que le voisin est à la fois proche et lointain, familier, étranger. Il peut être ignoré, mais il peut aussi transformer la vie des gens. Et souvent, le film de voisinage réunit lorsqu'il aboutit à une rencontre et qui n'était entre des gens qui étaient voisins sans le savoir, l'exemple le plus célèbre, je crois, du cinéma, c'est L'homme somme, hein, Solitude, de Paul Feyerabend en 1928, où deux jeunes gens se cherchent dans toute la ville avant de s'apercevoir qu'ils habitent des deux côtés d'un mur mitoyen. Alors, ce qui rapproche tous les habitants ici dans Fenêtre sur Cour, évidemment, c'est la chaleur, mais nous l'apercevons surtout par des données visuelles. Hein, l'ouverture, évidemment, des fenêtres, ou les poses abandonnées, la sculptrice abandonnée, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Les voisins donc souffrent de la chaleur, mais plus discrètement, enfin par leurs vêtements ou par leurs fenêtres ouvertes. Mais à part ça, ils ne perdent rien de leur énergie. Hein. Le musicien compose, organise des soirées. Miss Torso ne perd pas une occasion de danser. La jeune mariée, on l'a dit tout à l'heure, sait de quoi occuper son temps, etc. etc. Tamboile tue sa femme et on ose à peine imaginer l'effort physique que, ça doit demander. Et lui seul, d'ailleurs, hein, éponge son front pour montrer qu'il est chaud, qu'il est fatigué, ce qui est à peu près donc, le seul à faire. Donc, ils ne forment pas un vrai voisinage parce que les voisins ne se voient pas entre eux, parce qu'ils s'ignorent. Leurs seules relations sont distantes. Je vous rappelle le moment au début très drôle où une voisine essaye de dire simplement bonjour à l'autre et l'autre ne la comprend pas. Good morning, oui, good morning. Sont carrément agressifs, hein, le moment où Thorwald, toujours lui, fait taire sa voisine qui lui dit de ne pas mettre trop d'eau dans les fleurs. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui relie les voisins, il y a un moment où les voisins convergent en communauté. C'est le moment de la mort du petit chien, où d'ailleurs James Stewart fait remarquer qu'ils sont tous là, sauf évidemment Thorwald. Donc ça, c'est le moment où la voisine crie « Vous avez tué ce petit chien, vous êtes horrible, vous êtes de très mauvais voisins, etc. » C'est aussi le seul moment, sauf erreur de ma part, mais je crois avoir bien vérifié, où on voit de près ce qu'on voit toujours de loin, notamment... Miss Torso ici et Madame Miss Lemirat ici. Et Jeff non plus n'est pas un bon voisin. Hein. Nous le voyons d'abord tourner le dos à la cour. On sait qu'il est rarement chez lui, donc il ne connaît pas, il ne s'est jamais intéressé à ses voisins. Et c'est vraiment la canicule et l'immobilité qui lui permettent de découvrir ce qu'il avait sous les yeux. Et même ainsi, il garde une certaine myopie. Puisqu'il ne voit ses voisins que par les activités par lesquelles ils sont les plus identifiables. Hein. La danse, la musique, la solitude, etc. Et de ce fait, il les réduit à des stéréotypes. S'il s'intéresse en particulier à Thorwald, c'est justement parce qu'au début, il n'arrive pas à le typer, et qu'ensuite, il le type très vite sur le mode criminel. Et bien sûr... il a aussi la satisfaction de pouvoir observer Thorwald avec son outil de travail, c'est-à-dire avec cet appareil dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Alors, je précise que cette analyse peut continuer sur bien d'autres points. Je n'ai volontairement pas cherché ailleurs. Je comptais terminer, mais je ne vais pas le faire, avec une référence à d'autres films des années 50 où il fait très très chaud et où la chaleur nous dit quelque chose. Je pense en particulier, évidemment, tout le monde y pense, à Sept ans de réflexion et peut-être surtout à 12 hommes en colère. Ce qui est formidable, c'est que la présence physique de la chaleur, de la sueur, de la fatigue causée par la chaleur, de l'énervement qui fait que les gens sont prêts à tout, y compris à condamner quelqu'un qui est peut-être innocent pour sortir de cet espace étouffant, et là, à mon avis, la chose qui, dans le film, n'a pas vieilli. Et n'a pas vieilli justement parce que cette entrée fracassante de la présence corporelle, hein, des effets de la chaleur sur le corps, est vraiment tout à fait exceptionnel. Et aujourd'hui, si on peut trouver certains autres aspects du film un peu démodés, eh bien celui-là n'a pas vieilli. Voilà, je m'arrête là pour donner place à vos questions si vous en avez. Et je vous remercie.